Bon, alors il y a beaucoup de manières d'aborder la théorie freudienne du rêve, qui tient en une thèse que je vous apprends ou que je vous rappelle, et qui est défendue dans la trame de Tout, l'interprétation du rêve, le livre de 1900, là, dont la traduction est liée à une nouvelle traduction, du moins, a été publiée récemment. C'est que tout rêve, dit Freud, est un accomplissement de désir. Ce désir ayant plusieurs caractéristiques, inégalement importantes et s'impliquant de façon assez compliquée les unes les autres. Donc tout rêve est un accomplissement de désir, ce désir est sexuel, comme tout le monde sait, il est infantile et inconscient, et ce qu'on sait moins, c'est qu'il est aussi égoïste. Mais voilà les quatre traits principaux de ce désir qui est accompli par le rêve, il est sexuel, infantile, égoïste et inconscient. Et que pour Freud, c'est la thèse essentielle de la Traumdeutung, de l'interprétation du rêve, trouver la signification du rêve, c'est tout simplement caractériser ce désir. C'est un point de départ, c'est pour ça que Freud a beaucoup insisté sur la valeur de ce rêve pour la psychanalyse, de ce traité sur le rêve pour la psychanalyse. C'est un point de départ parce que le rêve est conçu par Freud comme le premier maillon d'une série, où figure, à mesure que l'on avance dans la série, les phobies, les obsessions et même les délires. Autrement dit, quand on a mis la main sur le premier maillon de la chaîne, en quelque sorte, il suffit d'attraper les suivants et on peut attraper ainsi la signification de ces formations pathologiques qui intéressent le Freud de 1900. Alors, j'ai étudié pendant plusieurs années ce bouquin, Interprétation du rêve, que j'ai commenté, j'ai publié des différents travaux là-dessus, et je me suis toujours intéressé à ce bouquin en historien et en philosophe des sciences. C'est-à-dire, je me suis posé des questions qu'on se pose dans ce genre d'approche, du genre, comment est-ce que Freud prouve ce qu'il prétend prouver, comment est-ce qu'il intègre ou comment est-ce qu'il critique les autres travaux contemporains sur le rêve, sur la psychopathologie, etc. Et ce soir, je voudrais prendre un tout autre départ, qui procède d'une observation, peut-être anodine, enfin j'espère qu'elle ne l'est pas, sinon vraiment j'ai raté mon coup ce soir, c'est que Freud rêve beaucoup de femmes dans la Traumdeutung. Les rêves que font les femmes ont un statut essentiel pour sa théorie, en particulier bien sûr le rêve d'Irma, qui est de l'injection d'Irma, qui est le premier rêve commenté qui sert de prototype à l'analyse de la signification du rêve dans la Traumdeutung, mais aussi le rêve que depuis Lacan on appelle le rêve de la belle bouchère, qui est un rêve que lui raconte une de ses patientes et qui va servir de point de départ pour déterminer ce que c'est que l'identification hystérique. Le rêve de cette femme très spirituelle qui rêve un rêve pour démentir la théorie freudienne du rêve. Un rêve dans lequel, justement, c'est surtout ce qu'elle ne veut pas, à quoi elle rêve. C'est assez intéressant parce qu'on insiste souvent sur le fait qu'elle est très spirituelle. C'est une des plus spirituelles, Witzigst. Et on oublie de dire que c'est quand même une femme, ce qui n'est pas négligeable. Et finalement, dans les années qui vont suivre, les deux rêves de Dora, dans le cas Dora, jouent un rôle absolument essentiel comme la vérification des théories de la Traumdeutung. Puis je terminerai ce soir en vous parlant d'une autre analyse de rêves de femmes très problématique, c'est ces rêves étranges que fait la patiente qu'on appelle la jeune homosexuelle, dont on sait aujourd'hui le véritable nom. Xylag, elle s'appelait, c'était donc un nom hongrois, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui va mettre en pièce la théorie freudienne du rêve, d'une manière que je vous raconterai à la fin, en faisant un rêve extrêmement étrange que Freud qualifie de rêve menteur. C'est un rêve de démenti, comme le rêve de la patience spirituelle, c'est un rêve menteur, c'est un rêve qu'il a que Freud caractérise comme un rêve menteur. Alors le fait que ce soit toujours des femmes qui interviennent à ces moments charnières, est-ce que c'est anodin? Je ne crois pas. Mais pourquoi? Alors, je voudrais commencer par distancer mon propos d'une autre manière de voir les femmes chez Freud, qui est extrêmement commune dans l'histoire de la psychanalyse, l'histoire contemporaine de la psychanalyse, ou les travaux érudits qu'on fait sur ces questions, et qui est notamment très inspirée par l'historiographie féministe. Alors, en simplifiant beaucoup, parce que ce n'est pas le sujet de la conférence, c'est juste des points de repère que je donne pour m'en démarquer, en simplifiant beaucoup, c'est l'idée que l'hystérie, c'est une maladie qui, à la fin du XIXe siècle, reflète surtout les attitudes sociales à l'égard des femmes et de la condition féminine. Bon. Freud à cet égard, et le contemporain, les autres théoriciens de l'hystérie, particulièrement Janet, même d'une certaine manière Charcot, parce que bon, Charcot meurt en 1893, mais il meurt jeune, on peut considérer qu'il y a un décalage d'une génération, mais pas de deux ou trois entre Charcot et Freud, et que tous ces gens partageraient des conceptions qu'on voit extrêmement bien caractérisées, par exemple dans les grands traités soit féministes, soit anti-féministes de l'époque, que les femmes ont un ensemble de caractéristiques qui inclinent les médecins à pathologiser les extrêmes de ces caractéristiques féminines. Les femmes sont beaucoup plus sensibles qu'intellectuelles, la destination essentielle de leur sexualité, c'est la maternité, et le trait fondamental de leur affectivité, c'est la dépendance. Bon. Alors, il suffit simplement d'aller à l'extrême de ces caractérisations-là, et que ce soit tout simplement parce que vous les prenez comme soumises à une sorte de loi naturelle qui les fait quasiment biologiquement inférieures aux hommes, ou bien que ce soit pour des raisons d'éducation, hein, ce que disent beaucoup de féministes à l'époque, et en accentuant ces traits de dépendance affective, de sexualité qui ne s'épanouit que dans la maternité et de sensibilité et d'impuissance donc à maîtriser intellectuellement ou cognitivement, comment dire aujourd'hui, un certain nombre de choses, et vous avez tout simplement le tableau de l'hystérie. Alors ça a toutes sortes effectivement de traductions dans les représentations de la fin du XIXe siècle, sur lesquelles la littérature féministe a largement discuté ces 30 dernières années, des traductions politiques, des traductions culturelles, etc. Pourquoi n'y en aurait-il pas une traduction psychologique et médicale? Et pourquoi est-ce que ça ne caractériserait pas au fond ce qu'on appelle l'hystérie, et pourquoi Freud échapperait, plus que les autres, aux représentations qui manipulent de cette manière. Alors, on peut se demander donc si la psychanalyse n'a pas tout simplement reconduit ses préjugés sociaux, ou ses vérités d'ailleurs, parce que bon, on ne sait rien, hein, en leur donnant simplement une forme de légitimation de plus, une légitimation par l'inconscient. Bon. Comme je vous dis, il y a une littérature immense là-dessus. L'historiographie freudienne, qui s'est intéressée, c'est des gens comme John Forrester, par exemple, qui a écrit sur les femmes dans le paysage intellectuel et la clientèle de le cercle familial et la clientèle de Freud, puisqu'on a réussi, d'une certaine manière, à peu près toutes à les identifier aujourd'hui, on a trouvé leur vrai nom, on a reconstitué un certain nombre de leurs histoires, est moins critique. Mais elle participe, elle est moins critique, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à montrer que Freud n'est qu'un représentant parmi les autres de la médicalisation, de l'hystérie et de l'impasse sur la question féminine à l'époque. C'est pas sur ce ton-là, mais ça reste pris dans le même paradigme d'une influence des représentations de la femme sur la construction de la théorie. La tâche que je me propose ce soir est beaucoup plus délicate, et d'ailleurs elle est peut-être impossible, c'est de chercher pourquoi, conceptuellement, et non pas simplement historiquement ou de manière empirique, quoi, les rêves de femmes, au sens génitif, objectif ou subjectif, ont une valeur cruciale, non seulement pour Freud en tant que personnage, mais pour la psychanalyse. C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'est-ce que les rêves de femmes, rêves où les femmes apparaissent, ou rêves que les femmes racontent, ou rêves que dans lesquels on apparaît à une femme en rêve, en quel sens, c'est pas un accident, si un relief très particulier émerge là, mais un trait de structure. Alors, il y a trois problèmes, évidemment, que je vais essayer successivement de circonscrire dans cette manière de faire. C'est d'abord, tout simplement, c'est que Freud ne le reconnaît pas directement. Bon, il ne le reconnaît pas directement. On cite souvent de lui le mot qui d'ailleurs a fait le titre de cette série de conférences, hein, « Que veut une femme ?». Il faut savoir que le fameux « Que veut une femme ?» dont on parle, surtout en France d'ailleurs, avec WW, donc ils ont les initiales des mots allemands que je ne hasarderai pas à prononcer ici. Mais il faut bien s'en rendre compte, c'est un montage lacanien, ça, c'est une interprétation lacanienne d'une position de Freud, dans la mesure où c'est une phrase dont la formulation même est assez ambiguë, puisqu'elle est rapportée par Marie Bonaparte dans une conversation relativement anodine, on a beaucoup de mal à savoir si ça a toute la valeur absolument fondamentale que lui prête Freud. D'ailleurs, il y a un livre dont j'oublie le nom, d'un Américain qui s'est intéressé à comment on a transformé cette petite question « Mais que veut une femme ?» de Freud à Marie Bonaparte, en une gigantesque question embrassant les enjeux les plus profonds de la psychanalyse. En tout cas, Freud ne dit pas vraiment ça. La deuxième chose, deuxième difficulté, c'est qu'évidemment, le simple fait de poser la question dans ces termes, ça m'engage, évidemment pas comme simplement comme philosophe ou comme historien ou comme psychanalyste, mais aussi évidemment comme homme, puisque c'est là un point de vue masculin sur le point de vue féminin, pas simplement sur le féminin, hein, sur ce qu'est une femme, mais un point de vue masculin sur le point de vue féminin à l'égard du point de vue masculin, qui est en cause dans ce type de question, sur ce que c'est que le rêve d'une femme. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a justement pas la position de surplomb possible dans laquelle on pourrait objectiver ce que c'est que le rêve d'une femme. Et ça, on est pris, on est assigné déjà un sexe, rien que dans la manière de poser la question et de s'exposer aux différentes réponses qui peuvent y être données. Alors, c'est ce qui me mène à la troisième difficulté, c'est que on ne peut pas traiter comme les historiens ici, masculin ou féminin, comme des sortes de propriétés accessoires des individus, n'est-ce pas? Les gens seraient des hommes et des femmes comme ils sont français ou autrichiens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une théorie du rêve en disant que les gens ont des rêves, hein, et puis que par ailleurs, hein, comme il y a des hommes et des femmes, il y a des rêves de femmes et d'hommes. Hein. L'idée que j'essaie de soulever, c'est donc quelque chose qui n'engage pas simplement l'histoire de la représentation, pour faire l'histoire de la représentation féminine, comme on pourrait faire l'histoire de la représentation autrichienne, par exemple, de l'époque, ou française, mais celle de la position sexuée qu'on a quand on pose un certain type de questions, et quand on essaie de tenir compte du fait que si on rêve d'une femme quand on est d'un homme ou d'un homme quand on est d'une femme, il y a là une asymétrie tout à fait singulière et dont on ne peut pas s'extraire, hein, pour avoir un point de vue supérieur. Et que donc un sexe soit l'autre sexe de l'autre sexe, d'une certaine manière, joue un rôle caractérisant pour les rêves et les désirs. Et il engage la texture même de la théorie psychanalytique. C'est dans ce cadre même, en quelque sorte, que la théorie freudienne du rêve se déploie. Alors, j'avais prévu un exposé extrêmement long dont j'ai sabré énormément de choses. Je vais simplement faire deux choses ce soir. Je vais vous lire ou vous relire pour ceux qui ne le connaissent pas. Le rêve d'Irma dans l'interprétation du rêve. Et puis, je passerai plus brièvement sur la question du rêve de la jeune homosexuelle qui, 20 ans après, semble démentir la théorie initiale du rêve et poser un problème tout à fait embêtant à Freud. Alors, Je vous lis ce passage dans la nouvelle traduction, qui est donc dans la nouvelle traduction, dans le volume 4, page 142. Je vous lis à la fois le petit prologue, c'est un peu long, mais aussi le texte du rêve. Durant l'été 1895, j'avais eu en traitement psychanalytique une jeune femme qui était très proche de moi et des miens par l'amitié. On comprend qu'un tel mélange dans les relations puisse devenir la source d'excitation multiple pour le médecin et d'autant plus pour le psychothérapeute. L'intérêt personnel du médecin est plus grand, son autorité moindre. Un insuccès menace de desserrer les liens d'une vieille amitié avec les proches du malade. La cure se termina par un succès partiel. La patiente perdant son angoisse hystérique, mais non pas tous ses symptômes somatiques. À l'époque, je n'étais pas encore bien sûr des critères qui marquent la liquidation définitive d'une histoire de maladie hystérique, et je crus la patiente susceptible d'adopter une solution qui ne lui parut pas acceptable. C'est dans un tel désaccord que nous interrompîmes le traitement à cause de la période estivale. Je reçus un jour la visite d'un confrère plus jeune que moi, un de mes plus proches amis, qui avait rendu visite à la patiente, Irma, et à sa famille, dans la résidence de campagne. Je lui demandai comment il l'avait trouvée, j'obtins cette réponse, elle va mieux, mais pas tout à fait bien. Je sais que les paroles de mon ami Otto, ou le ton sur lequel ils étaient prononcés, m'irritèrent. Je crus y entendre un reproche, celui par exemple d'avoir trop promis à la patiente. Et je ramenais, à tort ou à raison, le parti pris présumé d'Otto contre moi, à l'influence des proches de la malade, qui, ce que je supposais, n'avait jamais vu mon traitement d'un bon œil. D'ailleurs, je ne m'expliquais pas ce que ma sensation avait de pénible, je ne l'exprimais pas non plus. Le soir même, je n'ai encore pas écrit l'histoire de malade Irma pour la transmettre, comme pour me justifier, au docteur M, un ami commun, la personnalité qui à l'époque donnait le ton dans notre cercle. La nuit qui suivit cette soirée, sans doute plus tôt au matin, j'eus le rêve ci-dessous qui fut fixé immédiatement après le réveil. Rêve donc du 23 à 24 juillet 1895. Un grand hall, beaucoup d'invités que nous recevons, soirée ici, quoi. Parmi eux Irma, que je prends aussitôt à part comme pour répondre à sa lettre, lui faire des reproches pour n'avoir pas encore accepté la solution. Je lui dis, si tu as encore des douleurs, ce n'est vraiment que de ta faute. Elle répond, si tu savais ce que j'ai à présent comme douleur à la gorge, à l'estomac et au ventre, ça me sert de partout. Je suis effrayé et la regarde. Elle a un air pâle et bouffi. Je pense finalement que je mets quand même de voir là quelque chose d'organique. Je l'emmène à la fenêtre et regarde dans sa gorge. À ce moment-là, elle se montre quelque peu récalcitrante, comme les femmes qui portent un appareil dentaire. Je pense en moi-même, elle n'en a pourtant pas besoin. Du reste, la bouche s'ouvre alors très bien et je trouve à droite une grande tache blanche. Et ailleurs, je vois sur de curieuses formations frisées, manifestement formées sur le modèle des cornées du nez, des escarres étendues d'un blanc grisâtre. J'appelle vite en consultation le docteur M qui répète l'examen et confirme. Le docteur M a un tout autre air que d'habitude, il est très pâle, boite, a le menton sans barbe. Maintenant, mon ami Otto se tient aussi debout à côté d'elle et l'ami Léopold la percute à travers son corset et dit « Elle a une matité en bas à gauche. » Il montre aussi une partie cutanée infiltrée à l'épaule gauche, ce que malgré le vêtement, je sens comme lui. Elle me dit « Pas de doute, c'est une infection, mais ça ne fait rien. Il va s'y ajouter encore de la dysenterie et le poison va s'éliminer. » Nous savons aussi immédiatement d'où provient l'infection. L'ami Otto lui a administré, il y a peu, alors qu'elle ne se sentait pas bien, une injection avec une préparation de propyl, propylène, acide propionique, c'est les hésitations notées dans le Freud, triméthylamine, dont je vois la formule en caractère gras devant moi. On ne fait pas de telles injections avec légèreté, il est vraisemblable aussi que la seringue n'était pas propre. Alors, ce rêve extrêmement étrange est suivi, pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais ouvert la trame d'eau et tout, d'une très longue étude analytique, partie par partie, fragment par fragment, où Freud se met en quête du désir qui a bien pu motiver un rêve de cette sorte et attraper autant de détails par rapport à la veille, ce qui s'était passé, au problème du traitement, et justifier en quelque sorte les différents éléments de du rêve. Alors, je crois que vous n'imaginez pas le nombre d'études consacrées à ce rêve. Moi, j'ai essayé d'en lire quelques centaines et puis j'ai arrêté parce que c'est absolument hallucinant le nombre de choses qui ont été écrites là-dessus. À un moment, on s'arrête. Ce qui est très délicat, c'est de comprendre en quelque sorte comment ce rêve-là a pu paraître à Freud. C'est un rêve qu'il a préféré à un autre que son ami Fliss lui a dit de ne pas publier. Alors certes, on ne sait pas quel est l'autre rêve, mais ce n'était pas le rêve, c'était pas la première intention de Freud. Comment est-ce qu'il est considéré comme un accomplissement de désir? Alors je vais faire sur ce premier rêve, le rêve d'Irma. Voilà, un rêve de femme, c'est une femme qui apparaît en rêve à Freud. Une première série de remarques de contexte sur ce qu'en dit Freud et sur ce que nous savons par ailleurs, puisqu'on sait à peu près maintenant qui est Irma. C'est un mélange de deux personnes, Anna Hammerstein et Emma Eckstein, dont on connaît l'histoire de vie, ce qui leur est arrivé, etc. Et puis après, je ferai quelques conjectures sur cette irruption assez angoissante et culpabilisante de la souffrance hystérique dans les rêves du médecin, sur leur signification. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cette femme qui arrive en rêve pour se plaindre au médecin? Alors, tout d'abord, permettez-moi de remarquer que le désir en cause dans le rêve n'est à aucun moment dans l'analyse que va donner Freud mentionné pour lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il dit que le rêve est un accomplissement de désir, mais dans le cas du rêve d'Irma, comme dans d'ailleurs la totalité des rêves de la trame de Hütung, ce qu'on a, c'est une ambiance dans laquelle il y a des affects, des désirs, des angoisses, des soucis, etc. Il y a une ambiance, mais jamais, à aucun moment, il ne dit « voilà le désir, voilà la formule, n'est-ce pas ?» dont se déduit l'ensemble des détails du rêve. Donc le désir en cause dans le rêve n'est pas clairement nommé, pas plus que la façon d'ailleurs dont il produit ce rêve particulièrement, plutôt que n'importe quel autre. Pourquoi ce désir va attraper telle ou telle image et les propulser dans la vie du sommeil, en quelque sorte comme au cinéma. Alors, il y a un truc dont clairement Freud a conscience, dont on ne peut pas dire donc que c'est un désir inconscient, c'est de sa culpabilité de ne pas avoir correctement soigné Irma. Donc on peut déjà, sur les centaines d'interprétations qui ont été avancées, éliminer toutes les interprétations qui consistent à dire, voilà, c'est très simple, ce qui est transparent, c'est que c'est sa culpabilité d'avoir mal soigné Irma qui est l'agent du rêve. Il rejette la faute sur elle. Parce que inconsciemment, c'est rien d'inconscient là-dedans. Il le sait avant, il le sait pendant, et il le sait après le réveil. C'est qu'il voudrait, alors un petit peu quelque chose qui est un peu moins clair, hein, c'est que déjà, il voudrait que Irma accepte sa solution. Alors cette solution, c'est que Irma, nous savons qu'elle était veuve, et que Freud lui avait recommandé, au fond, d'avoir des rapports sexuels, comme une solution qui aurait pu effectivement calmer ses désordres somatiques. Et parmi les désordres somatiques, notamment ceux d'Emma Eckstein, qui est une des figures du rêve, il y avait des écoulements sanguins, des règles déréglées, particulièrement pénibles, qui créaient une asthénie qui avait effectivement pratiquement menacé la vie de cette femme. Alors ça, c'est un point assez amusant, parce que, en quelque sorte, là, on est déjà à faire quelque chose d'un peu plus inconscient, c'est que justement, il ne lui dit précisément pas dans le texte que la solution, c'est d'avoir des rapports sexuels. Bon. Alors, ce qui est, à mon avis, le plus complètement inconscient là-dedans, c'est qu'il ne veut pas savoir quelque chose qui le poursuit en rêve. Il y a quelque chose de ce qui se passe dans la cure d'Irma, qui arrive comme ça à s'imposer, c'est que Irma pourrait bien avoir raison. Et ça, le point qui était extrêmement délicat, c'est que non, tu as raté quelque chose, c'est-à-dire que c'est ta solution, je n'en veux pas. C'est curieux d'ailleurs, il le tutoie en rêve, mais bon. Ta solution, je n'en veux pas, parce qu'il y a autre chose qui est en cause. C'est-à-dire qu'elle a raison de ne pas guérir, en quelque sorte. Et que l'injection, alors le mot est ambigu parce que le zoom, ça veut dire aussi bien la solution du problème que la solution qui est injectée. C'est effectivement là qu'on essaie de lui injecter une solution, hein, à la pauvre Irma, et que justement cette solution se produit par association. Après, Freud va s'apercevoir que ça fait partie des produits chimiques qui entrent, semble-t-il, dans la composition des substances sexuelles, et en particulier, d'après ce qu'on croit savoir, la triméthylamine serait un composant qui donne au sperme son odeur. Bon. Ce que savait notamment M, qui est Fliss, probablement au broyeur, on ne sait pas exactement, qui était un spécialiste des rapports entre le nez et les circonvolutions du nez et les circonvolutions des organes génitaux, et qui avait construit entre les deux une sorte de système plus ou moins fou d'ailleurs de correspondance étrange. Bon. Donc on voit très bien là que ça commence à devenir de plus en plus angoissant, de plus en plus charnel, de plus en plus, évidemment, la tache blanche au fond de la gorge, elle ouvre bien la bouche, tout commence à devenir extrêmement effrayant, hein, et en même temps excitant. Et comme d'ailleurs fait remarquer Lacan à assez juste titre sur ce passage du rêve, ce qui est très curieux, c'est que Freud ne se réveille pas. C'est-à-dire que une fois qu'il y a ces images-là qui sont des images de cauchemar, circonvolution du nez, des escarres, de la chair morte, etc., il ne se réveille pas. Alors que c'est quand même un point de cauchemar, hein, qui est là éveillé. Alors, ce qu'on sait, deuxième chose pour le contexte qu'il faut savoir, c'est que Freud, à ce moment-là, c'est la cinquième grossesse de sa femme qui vient d'apprendre, et qu'on sait par diverses indiscrétions que cette cinquième grossesse était rien moins que désirée. Et que la question de savoir ce qui se passe comme ça avec sa femme et avec justement les conséquences des rapports sexuels est quelque chose qui le trouble beaucoup. Enfin, si c'est un point qui a beaucoup, beaucoup influencé les interprétations habituelles du rêve d'Irma, c'est qu'il y a un modèle paternel très clair, hein, dans ce rêve, c'est le docteur M, qui est tantôt broyeur, tantôt flisse pour différentes raisons. Broyeur, c'était ce médecin plus âgé qui avait introduit en quelque sorte Freud dans le milieu des médecins viennois, qui lui avait prêté de l'argent et qui avait été notamment le médecin d'Anna O, hein, la première patiente traitée par le traitement cathartique. Et Fliss, donc, était un type un peu plus âgé, un otorino berlinois avec lequel Freud a entretenu une correspondance absolument immense au moment de l'invention de la psychanalyse. D'ailleurs, il y a des bonnes raisons de penser que M, c'est aussi le frère aîné, Alexander, de Freud, qui vivait en Angleterre. En tout cas, ce sont des gens qui ont tous un trait commun, c'est qu'ils ne croient pas à la psychanalyse. et que tous ces hommes, hein, ce sont tous des hommes qui pensent que Freud, là, il exagère beaucoup sur ce qu'il prétend avoir trouvé, et que c'est devant eux que se déplace toute cette histoire de justification. Et la raison pour laquelle je suis extrêmement sceptique sur le fait que ça puisse être une raison suffisante, c'est ce souci de justification, c'est que Freud est conscient qu'il veut se justifier. Et que c'est certainement pas autour d'un désir conscient qui peut indiquer quel est le point d'inconscient qui est le moteur véritablement d'un rêve. Évidemment, la culpabilité peut mobiliser des désirs qui sont conscients, on a plein de désirs conscients, mais c'est pas suffisant dans la doctrine orthodoxe que Freud a du moins a construit, la doctrine psychanalytique orthodoxe, pour causer un rêve. Alors je voudrais maintenant faire quelques remarques sur l'esprit du problème que je pose. C'est que donc, contrairement à une lecture très courante, il est faux que Freud soit seulement soucieux de faire valider à ses amis médecins qu'il a quand même raison, lui, et que c'est Irma qui a tort. Et que Irma revient dans le rêve comme un fantôme vengeur pour lui dire « tu t'es trompé ». C'est-à-dire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de me dire d'avoir des rapports sexuels pour guérir mon hystérie. C'est d'ailleurs l'interprétation que j'avais défendue dans mon bouquin sur la trame d'Oitoum, c'est qu'au fond, c'était un rêve qui était un rêve étrange parce que c'était un rêve qui était le rêve fondateur de la théorie psychanalytique du rêve, et le contenu du rêve, c'est de justifier que cette théorie psychanalytique est vraie. Vous voyez, par une sorte de mise en abîme étrange, il se sert de ce rêve dans la trame d'Oitoum pour fonder la psychanalyse en disant voilà ce que c'est que le contenu d'un souhait inconscient. Et qu'est-ce que c'est que le souhait inconscient? Ben, c'est le souhait inconscient que la psychanalyse soit une théorie vraie. Et par une sorte d'emboîtement assez curieux, j'avais trouvé ça très malin. Je suis moins optimiste aujourd'hui, parce que je crois que ce qui manque à cette idée, qu'effectivement on n'avait pas été défendu, il y en a tellement d'interprétations du rêve d'Irma, j'étais très content d'en avoir trouvé une autre, une qui me paraissait très très plausible, c'est que l'interprétation n'est pas sexuelle, elle n'est pas inconsciente. Elle ne met pas en jeu, justement, le problème que ça pose, que ce soit une femme qui revienne là comme un fantôme, dire « j'ai raison, tu as tort ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans l'hystérie féminine, dans ce qu'il y a de féminin dans l'hystérie. En fait, Irma l'interpelle de l'intérieur de son propre rêve, en lui disant clairement qu'il n'y a pas que la sexualité telle que Freud la conçoit. Et cette altérité sexuelle, là j'avance un peu, redouble ce qui est un peu plus apparent dans la théorie de Freud et le rend plus complexe et plus profond. Je crois qu'il faut rappeler que l'originalité du point de vue de Freud, c'est d'essayer de tenir compte du fait que le rêve est une expérience vécue en première personne. C'est pas, comme tous les contemporains le disaient à l'époque, une sorte des espèces d'images kaléidoscopiques déformées, jaillissant d'un cerveau fatigué, dans lequel la désorganisation mentale fait que se succèdent un peu de façon anomale, des sortes de fleurs psychiques comme ça, qui ont des couleurs, qui sont en fait de petits souvenirs, d'associations, etc. Ça a une cohérence, et cette cohérence, ce n'est pas une cohérence cognitive, c'est la cohérence d'un désir, c'est un « je désire quelque chose ». Et que ce désir qui émerge, il est identifié toujours chez Freud comme, d'où la tension propre au rêve, c'est ce que je désire, le critère du désir chez Freud, c'est ce que je ne veux pas. C'est ce que je ne veux surtout pas. Et justement, malheureusement, ça vient en moi, ça monte en moi, et je n'identifie ce que je désire que par le refus absolument que ce soit ça, et parce que je ne veux pas de ce désir qui monte en moi. Et donc, il faut prendre, c'est pour ça qu'évidemment, le modèle de ce type de rêve, c'est les rêves sexuels, c'est-à-dire je ne veux pas avoir à l'esprit ce type d'objet, je ne veux pas que ce soit ce type d'objet qui m'affecte à ce point. Et donc, l'idée de Freud, c'est que ce désir qui est ce dont je ne veux pas, est régi donc en quelque sorte par une intentionnalité obscure, c'est un désir en première personne, c'est bien un jeu. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, le désir peut avoir, et notamment évidemment le désir sexuel, son caractère obsédant. C'est-à-dire que tu ne le veux pas, mais ça revient sans cesse, tu l'identifies parce que plus tu y penses et plus tu t'aperçois que tu ne peux absolument pas faire autre chose qu'y revenir sans cesse, il revient sans cesse, il se répète, et c'est bien un désir. Ce qui fait que justement, le rêve est considéré comme la poussée de ce désir, qui oblige la conscience à réaliser la signification de ce qui monte malgré elle, d'une manière contre-volontaire, et même par opposition à l'effort de la conscience, et notamment de la conscience morale. Alors, évidemment, l'effet moral, l'angoisse et la culpabilité, il est bien là, ce sont des choses qui ne se vivent qu'en première personne. C'est le point de vue de Freud sur Irma dans ses coordonnées intimes. Mais c'est aussi un point de vue, ce point de vue subjectif de Freud, sur son point de vue à elle, c'est-à-dire une manière de juger du fait qu'elle a tort de vouloir faire valoir quelque chose qui échappe à la solution qu'il veut non seulement lui imposer, mais avec le jeu de mots, lui injecter, littéralement avec une seringue pour que elle ait reçu la solution. Et l'inconscient de Freud se heurte ici à quelque chose qu'il faut bien appeler l'inconscient d'Irma résistante. Et c'est bien le cœur de mon hypothèse. Qu'est-ce qui résiste là? Pourquoi est-ce que Freud s'angoisse que ça ne guérisse pas malgré l'interprétation sexuelle correcte et des rapports sexuels remaritoires qu'il lui a donné et qu'il défend mordicus devant les autres? Mais il me semble qu'il s'agit là d'une asymétrie encore plus compliquée, encore plus subtile que la première, qui est celle des points de vue subjectifs et de manière de tenir compte des points de vue subjectifs des deux partenaires de la scène. Ce point de vue subjectif sur un point de vue subjectif. C'est que je crois que Freud rencontre ici, grâce à Irma, une altérité qui déborde toute médiation. Il y a le remède traditionnel, d'ailleurs, aux souffrances somatiques, psychiques ou hystériques du veuvage, n'est-ce pas? C'était le remariage, on n'a pas attendu Freud pour découvrir ça. Et puis ce bon sens qui consiste à réintégrer, au fond, c'est ça la solution, au circuit des échanges érotiques, une femme qui va mal. Simplement, quand il ne se réveille pas et quand il va jusqu'au bout de la résistance à cette solution, ce qui se pointe, c'est un au-delà qui est aussi bien inconscient pour Freud que pour Irma, un au-delà de cette solution strictement phallique, strictement génitale. Si Irma a raison de n'aller qu'un peu mieux, elle va un peu mieux, mais pas tout à fait bien. Si elle n'est pas totalement guérie, et si elle vient demander des comptes, elle s'impose comme un fantôme, et elle se fait même halluciner dans le rêve de Freud. Et j'aime bien ici faire cette remarque sur ce psychanalyste anglais qui est peu connu en France, Bion, qui disait qu'il ne faut jamais oublier que dans un rêve, il y a une dimension de la production de l'imagerie qu'il appelle une excrétion visuelle. C'est-à-dire qu'on voit très très bien combien dans le rêve, ce qui s'impose de manière absolument hallucinatoire, ces cornets, ces escarres, cette chair morte dans un mélange de cadavres et de visualisation obscène d'un rapport sexuel qui serait comme ça examiné de manière hyper objective, cette excrétion visuelle qui arrive là traduit extrêmement bien ce qui n'est pas symbolisé dans le rêve, ce qui s'impose comme un pur réel. La bouche horrible est à la fois une allusion claire à la sexualité, mais aussi justement au fait qu'il y a quelque chose qui sent dans le corps qu'Irma donne à halluciner, si vous voyez ce que j'essaie de dire, quelque chose de très peu génital et très peu phallique précisément, quelque chose qui est au-delà de ce qui va pouvoir se domestiquer avec la sexualité ordinaire. Ça a quelque chose d'ignoble ou de dégoûtant à cet égard. Et c'est là où on mesure la force de cette remarque de Lacan, que c'est curieux que Freud ne se réveille pas. Si c'est ça, c'est étrange. Or, ça a trait à sa découverte. Parce que qu'est-ce qui est ici à présenter, c'est-à-dire forcé en présence, dans la vie onirique de Freud? C'est une sorte d'altérité, une altérité sexuelle sans médiation. Quelque chose qui ne se laisse pas ramener à ce qui serait en quelque sorte la contribution féminine à la vie sexuelle, un jeu qui serait ordonné autour du phallus, que les uns auraient, que les autres n'auraient pas, en sorte qu'on puisse laisser traiter comme lui, ou qu'on ne veuille pas se laisser traiter comme lui, etc. Et lorsque je parle de médiation, je parle précisément de ce qui est autour du phallus, autour de la comédie amoureuse par exemple, ou même de la tragédie, fait médiation entre les hommes et les femmes, et dont on peut effectivement raconter l'histoire, comme dans une comédie de Marivaux, qui se termine, n'est-ce pas, très souvent avec Polichinelle, le bossu uniforme qui prononce les dernières paroles des comédies de Marivaux, n'est-ce pas, et puis qui raconte, c'est quoi la fin des belles histoires d'amour, c'est la grossesse. comme à la fin de plusieurs comédies de Marivaux, c'est extrêmement sensible. Polichinelle, c'est le phallus, hein, il vient rappeler là, à la fin de la comédie ce que c'est que la vérité de toutes ces choses extrêmement subtiles qui sont passées entre un jeune homme et une jeune fille. C'est la reproduction, une espèce de crudité comme ça quelquefois qu'il y a, hein, qui est l'essence même de la comédie, hein, et que Marivaux a très bien vu. Or les femmes, justement, c'est ça l'idée, ne se laisseraient pas réduire à cette opération. Se laisserait pas réduire en particulier à la symbolisation phallique qui exerce sur les hommes, je crois que c'est assez intuitif, un pouvoir de castration, hein, puisque c'est ce qui fait d'un homme un père, hein, et ça c'est une transformation de statut qui ne s'inscrit nulle part dans son corps, sinon que de manière entièrement symbolique, ce qui fait d'un pénis de chair un symbole universel de fécondité et de vitalité, qui vaut pour les deux sexes, et pas simplement pour le sexe masculin, et qui fait que les êtres de sexe masculin, équipés du fameux pénis, en sont, de par l'exercice du symbole qui s'impose à eux, dépossédés. Ils n'en sont que les porteurs, et on sait bien les ravages que ça peut exercer sur le fonctionnement génital, n'est-ce pas, que tout d'un coup, ce fonctionnement génital puisse faire basculer quelqu'un de la position d'amant à celle de père, ça n'est pas toujours, c'est même rarement dans le sens du plaisir, n'est-ce pas, la comédie joue souvent là-dessus, n'est-ce pas, une fois marié, finit de rire, n'est-ce pas, c'est, une fois qu'on est dans la position paternelle, il n'y a plus de jouissance de l'organe, voilà, elle est méchamment abîmée. Or c'est bien ce à quoi Freud a voulu ramener la jeune veuve, à une sorte d'échange médié par le phallus, voilà, ça va s'arranger, le phallus médicament, à ce qui articule donc homme et femme. Seulement justement, ce que pointe la présence hallucinatoire d'Irma dans ce rêve, c'est qu'une femme n'est pas toute phallique. Ça déborde au-delà, il y a un réel qui échappe à sa domestication et au désir féminin. Il y a quelque chose du désir féminin qui ne se laisse pas tout entier phalliciser. Alors il faut bien voir que ce féminin non phallique, il est bien connu, hein. C'est souvent ce qu'on repère aux limites du sexuel, par exemple dans la mystique, hein, parce que, n'est-ce pas, comme l'interprétation au XIXe siècle totalement trivialisante et bien connue de l'extase mystique, n'est-ce pas, ça consiste à dire, ben voilà, c'est très simple, en fait c'est un orgasme. Bon. Sauf que le problème de l'orgasme, c'est qu'il se passe justement, hein, de toute médiation phallique. Un rapport à Dieu n'a aucunement besoin précisément de ceci. Et donc c'est une jouissance dont il est complètement futile d'essayer de faire en sorte que c'est une sorte de jouissance sexuelle sublimée, imaginaire, transcendante, mais qui serait quand même sexuelle, puisqu'elle change le mot même du sens de sexuel. Alors, bon, elle est certainement sexuelle, mais elle n'est pas phallique. Et c'est ça, souvent, un des indices qu'on a pu en donner. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu de faire de la sexualité, de prendre par exemple l'exemple du mystique, de la femme mystique, ce que fait Freud, c'est de dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher la femme mystique. Toute personne du sexe féminin peut avoir, justement, c'est même, je crois, un des éléments tout à fait génial de cette idée d'hystérie, présenter, alors évidemment, sous la forme d'un corps de douleur, un corps qui reste en souffrance, et la culpabilité de Freud s'adresse, à mon avis, autant à ce reste qu'il n'arrive pas à penser, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-delà de ce qui peut se réduire à quelque chose de l'échange phallique, et de ce qu'il n'arrive pas à penser, sauf en le pensant sous le mode des images du rêve, et ce que j'appellerais, donc avec Barienne, une excrétion visuelle qui est le reste à symboliser et à penser, qu'il n'arrive pas à penser. Et c'est pour ça qu'il le rêve, et qu'il l'hallucine en rêve. Et c'est bien là, effectivement, ce en quoi sa méthode est imparfaite, ce en quoi il y a quelque chose de la féminité, chez Freud, qui reste en souffrance, de la coupe de la pensée même de la féminité. Alors, une contre-épreuve à ce que je vous propose là, c'est un autre passage sur lequel je pense, de toute façon, Geneviève Morel dira sûrement quelque chose, à moins qu'elle l'ait déjà dit, elle est venue déjà causer, Geneviève Morel. Est-ce qu'elle a parlé du rêve de la jeune homosexuelle? Ah, hélas. Bon, je vais quand même en remettre une couche, hein, parce qu'en fait, je suis venu ce soir. Alors, peut-être qu'il faut la répétition. Bon. Alors, je vous lis ce passage, cette jeune homosexuelle que le père, tout à fait scandalisé de ses conduites avec une une demi-mondaine aux idées larges qu'elle fréquentait d'un peu trop près, dans un milieu où ça ne se faisait pas, a traîné par le col en fourrure, parce qu'on est quand même chez les gens bien, chez le professeur Freud, pour qu'il lui enlève cette vilaine manie de vouloir coucher avec des personnes de son sexe. Alors le pauvre Freud se retrouve sur les bras avec cette gamine qui, comme vous savez, en fait était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus maligne que Freud et qui, ça va se terminer par un échec cinglant. Et il y a bien des, comme on sait, comme elle a raconté après ce qui s'est passé, il y a plein de choses que Freud n'ose pas raconter dans son cas qui sont édifiantes sur dans quelle étape une homosexuelle peut mettre un psychanalyste. À une certaine période, peu de temps après le début de la cure, la jeune fille en a une série de rêves qui, tout en étant déformés comme il convient et rédigés dans une langue de rêve correcte, pouvaient se traduire facilement et sûrement. Or, leur contenu interprété était frappant. Ils anticipaient la guérison de l'inversion par le traitement, exprimaient la joie de la jeune fille devant les perspectives de vie qui s'ouvraient maintenant à elle, avouaient la désirance pour l'amour d'un homme et pour des enfants, et il pouvait ainsi être salué comme une préparation encourageante à la mutation souhaitée. La contradiction avec les déclarations qu'elle faisait en même temps pendant la veille était très grande. Et elle ne me savait pas qu'elle pensait assurément à se marier, mais seulement pour se soustraire à la tyrannie du père et pour vivre selon ses véritables penchants sans être dérangée. Du mari, estimait-elle avec quelque mépris, elle serait bientôt venue à bout. Et pour finir, on pouvait bien, comme le montrait l'exemple de la dame vénérée, avoir des relations sexuelles en même temps avec un homme et avec une femme. Averti par je ne sais quelle discrète impression, je lui déclarai un jour que je ne croyais pas à ses rêves, qu'ils étaient mensongers ou hypocrites, et que son intention était de me tromper, comme elle avait coutume de tromper le père. J'avais raison. À nouveau, vous voyez, c'est vraiment la question d'avoir raison contre les femmes qui est en cause dans cette histoire. J'avais raison. Cette sorte de rêve fut absente à partir de cette élucidation. Beau succès. Je crois néanmoins qu'à côté de l'intention d'induire en erreur, il y avait aussi dans ces rêves un certain effort pour briguer mes faveurs. C'était aussi une tentative pour gagner mon intérêt et ma bonne opinion. Peut-être pour me décevoir plus tard, d'autant plus radicalement. Quelle perversité. Je peux me représenter que la référence à l'existence de tels rêves de complaisance mensongers va déchaîner, chez certains qui se donnent le nom d'analystes, une vraie tempête d'indignation irrémédiable. Ainsi donc, l'inconscient, lui aussi, peut mentir. Ce véritable noyau de notre vie d'âme. C'est quand même un problème de dire que le rêve ment. Si le rêve ment, alors comment est-ce qu'il peut être, comment est-ce qu'il peut y avoir, être motivé par un souhait? Si le souhait est en question, il y a du mensonge. On ne mettra jamais la main sur le noyau d'immanence et de vérité de la production de ce désir inconscient, si on est menteur. Cela même en nous qui est tellement plus proche du divin que notre misérable conscience. Comment peut-on alors faire fond sur les interprétations de l'analyse et sur l'assurance de nos connaissances? Alors, pourquoi est-ce que c'est un point de crise pour Freud, ces rêves de la jeune homosexuelle? Pourquoi, encore une fois, est-ce que c'est une femme qui est ici en cause, en plus pas n'importe quelle femme, mais une homosexuelle? Je ne sais pas si Geneviève l'a dit, mais c'est très troublant, parce que quand on lit le cas de la jeune homosexuelle, on se dit, mais bon, après tout, elle pourrait être aussi bien être hystérique, c'est pas extrêmement clair qu'elle est homosexuelle. En revanche, quand vous lisez l'histoire de la vie, effectivement, il y a toutes sortes d'éléments supplémentaires qui sont accablants, enfin, non, c'était vraiment une homosexuelle tout à fait exemplaire du type de l'homosexualité féminine à la fin du 19e siècle, cette jeune femme. Et donc, je vais la prendre ici comme une homosexuelle, mais justement comme quelqu'un dont Freud ne dispose, au fond, pour en penser les rêves, que du modèle du rêve des hystériques. Autrement dit, quand je parle d'homosexualité, je parle ici d'homosexualité féminine, je parle ici d'un véritable défi, qui est caractéristique de l'homosexualité féminine, exclusive, un défi lancé au phallus, à régir prétendument l'ordre du monde, et en particulier à commander, même aux femmes, leurs attitudes subjectives intimes. C'est quand même la position, dans sa valeur éminemment critique de l'homosexualité féminine, dans la radicalité critique de l'homosexualité féminine, qui n'a pas attendu les mouvements militants contemporains pour se manifester, qui était déjà extrêmement bien pensé et conçu à l'époque de Freud, c'est ça, c'est la mise en cause de la prétention de ce dispositif phallique et paternel à régir non seulement la sexualité des femmes, mais même la sexualité humaine en général. Et elle lui fait très très bien savoir que ça c'est un jeu très bien, on voit très bien les avantages et les inconvénients, c'est un jeu où on ne tient pas spécialement à entrer, où elle est prête à faire d'ailleurs les concessions qu'il faut pour ne pas avoir trop d'ennuis, mais qu'elle a à faire valoir, justement, cette femme, cette jeune femme, une jouissance tout autre, où la femme est bien davantage femme. Freud, au départ, trouve donc que ses rêves hétérosexuels, ça qui est assez intéressant, ses rêves hétérosexuels, il les trouve construits comme de véritables rêves qui sont des produits de l'inconscient, c'est-à-dire qui sont déformés, il faut les interpréter. Ça semble être effectivement des productions, je dirais, de bonne foi, de la jeune homosexuelle. Et il ne les trouve menteurs que parce qu'il est complètement sidéré de voir que ses rêves s'intègrent parfaitement bien dans une récusation absolue du fait que la petite, elle ne va pas courber la tête, elle ne va pas obéir à papa, elle ira coucher avec qui elle veut, c'est les femmes. Alors la solution qu'il trouve pour essayer d'accommoder cette chose très enfin, c'est une solution qui vaut le coup d'être lue, parce que la fin du cas de la jeune homosexuelle, je ne sais pas si c'est bien le cas de le dire, ça part en quenouille, hein, on va dire comme ça. Je ne sais pas si Geneviève l'a mentionné, hein, et c'est sidérant. Alors là, on finit par invoquer les hormones, enfin le Steinhardt, enfin c'est une sorte comme ça de débandade généralisée de la théorie analytique devant le problème de l'homosexualité féminine qui vaut son pesant de cacahuètes. Et là, ça commence déjà à se défaire dans le texte. Parce que la solution, il dit que ce sont des rêves de complaisance, dont le motif est conscient. C'est plaire au père pour le tromper. Elle a toujours été consciente que c'était un motif. C'est que c'est ça le vrai motif de ses rêves. Puisque, évidemment, l'hétérosexualité, c'est le vœu du père, et que Freud, lui, n'est que l'instrument dans les mains du père pour guérir l'inversion de sa fille. Bon, alors d'abord, si le motif est conscient, il n'y a qu'une raison que ça fasse un rêve. C'est exactement la même chose que tout avec le rêve d'Irma. S'il est conscient, on voit pourquoi il y aurait besoin de dissimulation, de travail sur un matériel conscient. Deuxième raison, c'est complètement ad hoc, puisque la seule raison de savoir pourquoi c'est un rêve inconscient ou conscient, c'est l'explication que donne Freud. La seule raison de supposer que le motif du rêve est conscient ou même subconscient, c'est qu'il ne peut pas être inconscient. Il ne peut pas être inconscient, puisqu'on voit bien que le véritable désir de cette femme, le désir inamovible, c'est de continuer à coucher avec la dame, hein, et de mener sa vie d'homosexuel. Donc la seule raison pour laquelle il ne peut être que conscient, c'est qu'il n'est pas inconscient. Vous voyez la limitation à ce moment-là que cette femme impose à la théorie du rêve et à la conception de l'inconscient chez Freud. Puisqu'un rêve, ça doit trahir nécessairement l'intention de désir sous-jacente. Et donc la vérité qu'il y a dans le rêve, la vérité ne peut pas être un mensonge. Mais justement, voilà. Et si le rêve de la jeune homosexuelle était précisément la présentification sous sa forme la plus amusante, mais dans un silence, n'est-ce pas, pas dans le bruit de l'activité onirique, dans le silence de ce qui ne se présente pas comme justement les cornets du nez, les escarres, la chair pourrissante dans le rêve d'Irma, dans un silence à l'arrière-plan. La présentification de quoi? De cette féminité autre qui se traduit tout à fait, qui se trahit effectivement, mais dans un tout autre registre que le strict registre phallique. Au sens où, je veux dire, elle lui donne, en rêvant, non pas un rêve de complaisance, mais des productions qui entrent, hein, qui se laissent phalliciser. Cette femme est parfaitement capable de se représenter, il y en a un rapport sexuel avec un homme, il n'y a pas une sorte d'obturation mentale qui la rendrait incapable de fantasme avec un homme si c'est le prix à en passer pour le prix à payer pour avoir sa tranquillité sociale. Sauf que justement, au moment où elle produit ce type de choses, en silence et en retrait, c'est tout autre chose d'inamovible, d'extrêmement fort, qu'elle oppose à la prétention de Freud de la guérir de son inversion. Donc elle peut tout à fait avoir des aspirations hétérosexuelles, et elle se tient dans cette cure absolument hors de portée de Freud. Elle se moque positivement de lui, parce que, avec cette justesse extrême, cette ironie, ce sens critique très particulier, très fin des homosexuelles féminines, elle a parfaitement repéré que ce type est sourd et aveugle à sa véritable position. En un mot, je dirais, la jeune homosexuelle, elle présentifie les limites de la conception que Freud peut se faire de l'inconscient. C'est-à-dire, il arrive à avoir une idée de l'inconscient se rapportant au phallus, mais pas de ce second retrait qui est spécifique à la subjectivité féminine, non seulement en tant que sujet, mais en tant qu'autre, radicalement autre, à l'intérieur même de cette position subjective. Alors bien sûr, on peut écraser cette altérité sur ce à quoi elle se repère, puisqu'en fait, ce que la jeune homosexuelle fait, elle est autre que quoi, sa jouissance? Elle est autre que la jouissance que son père veut qu'elle ait et qu'il la réintègre au circuit ordinaire de l'existence. Donc comme elle est autre que celle qui est phallique, n'est-ce pas, elle n'est pas vraiment autre. On peut dire d'une certaine manière, elle n'est pas si autre que ça. Mais vous voyez le parallèle à faire ici entre Irma et la jeune homosexuelle. Ce qui se présentifie dans le rêve d'Irma, c'est ce qu'il y a du corps féminin qui est au-delà du corps et de la jouissance féminine, qui est au-delà de ce qu'on peut attraper dans la solution marie-toi et les enfants. Et dans le cas de la jeune homosexuelle, c'est pas sous un mode hallucinatoire, c'est sur un mode clairement de l'échec de l'interprétation et d'une difficulté à concevoir, donc chez Freud, la féminité comme une altérité subjective, ce qui échappe à l'ordre phallique tout en s'y référant. Alors en conclusion, je voudrais essayer je vais quand même faire juste une heure, hein. En conclusion, je voudrais dire trois choses, puisque j'ai dit qu'en introduction, je voulais essayer de faire apparaître ce qui pouvait être conceptuellement intéressant dans le fait que ce soit des rêves de femmes et que c'est la question de ce que ces femmes imposent dans le rêve et par le rêve à l'analyste n'était pas une sorte de contingence, comme ça, hein, ça aurait pu être un homme qui aurait posé le même type de problème. Mais non, c'est spécifiquement féminin et ça met en cause non seulement la théorie, mais même la position du théoricien face à ça. Position sexuée du théoricien face à ce genre de choses. Alors, est-ce que ce sont des échecs ou des angoisses de Freud? Bon, en tout cas, c'est par la psychanalyse que viennent, de manière tout à fait originale, se mettre en place des questions qu'on ne pourrait pas forcément formuler de la même manière, enfin, il y a des platitudes, si on ne passait pas justement par ce dispositif. Autrement dit, la question de l'extraordinaire des femmes est posée ici d'une manière, je crois, tout à fait intéressante, parce que au lieu, n'est-ce pas, chaque femme peut, à cet égard, avoir quelque chose d'extraordinaire sans qu'on soit obligé de la supposer, par exemple, mystique, ou sans avoir à supposer que l'homosexualité féminine serait l'index même du caractère irrécupérable de la sexualité féminine dans ce forçage qu'est le jeu de la comédie traditionnelle, n'est-ce pas, depuis l'Antiquité jusque là, c'est-à-dire la façon dont les hommes et les femmes réussissent quand même en se trompant mutuellement et en se trompant eux-mêmes dans la façon dont ils se trompent, je pense toujours à Marivaux parce que c'est le plus évident, dont de toute façon ça finit au lit et ça finit par des grossesses, hein, ce qui est le principe de mise en scène de la comédie, et ça nous fait rire et nous aimons ça et nous retournons le voir et nous en consommons de manière industrielle, hein, ces espèces de quiproquos qui aboutissent toujours à duper tout le monde en sorte qu'à la fin et c'est en général Polichinelle, hein, celui qui n'est ni le bossu, hein, avec sa grosse protubérance derrière et sa grosse protubérance devant, qui a assuré la médiation entre le jeune homme et la jeune femme. Bon, l'homosexualité féminine, vous voyez, on ne peut pas imaginer une comédie de Marivaux avec une lesbienne. Hein, c'est un principe de base de la comédie de Marivaux, c'est qu'il n'y en a pas. Vous pouvez essayer de faire toutes les mises en scène que vous voudrez, vous n'arriverez pas à faire rentrer dans un dispositif de cet ordre-là quelque chose comme l'homosexualité féminine. Bon. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez, quand on parle de la littérature dans l'homosexualité féminine, ça veut dire qu'il y a des contraintes littéraires, des formes littéraires particulières qui pourraient bien dépendre de manière systémique de dépositions subjectives des femmes qui écrivent ce genre de littérature. Alors, la première chose que je voulais soulever comme question, c'est qu'est-ce que serait une hystérie guérie? Est-ce qu'une hystérie guérie, c'est une féminité rendue à sa pureté? En tout cas, de façon logique, c'est une féminité qui ne jouerait plus dans le registre du pseudo-refoulement du phallus. Ce que c'est au fond la jeune homosexuelle, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Ben, elle essaie de faire un pseudo-refoulement. Elle rêve, il y a des choses à déchiffrer dans ses rêves. Elle s'installe dans une sorte de solution qui serait la solution hystérique si l'autre crétin y croit. Freud, là, le barbu. S'il y croit, il est content. C'est-à-dire d'organiser un dispositif hystérique par lequel, finalement, elle aurait des rêves de refoulement, n'est-ce pas, un pseudo-refoulement phallique. Mais ce que serait l'hystérie, ce serait justement quelque chose qui se dispenserait de ce pseudo-refoulement du phallus, mais qui permettrait à une femme de se tenir, après tout, dans un double registre de jouissance, aussi bien celui de la jouissance phallique que de celle qui ne l'est pas. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que ça implique une difficulté tout à fait spéciale des femmes à dire « je ». Puisque non seulement chez les femmes, il y a des difficultés ordinaires à dire « je », qui vaut aussi bien pour les hommes, mais parce qu'en fait, quelque sorte, ce deuxième point de retrait qui fait qu'elles sont autres par rapport même à la subjectivité qu'on leur suppose, les fait vivre éventuellement sans ce double appui, enfin, si sensible dans le jeu masculin, de l'autorité. Parce que c'est quand même le symbole de l'autorité, celui qui en est le détenteur de ce sceptre, et l'universalité. Puisque, n'est-ce pas, on dit tous les hommes, et quand on dit tous les hommes, ben on inclut généreusement les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les hommes qui servent à nommer le tout, dont les femmes sont une partie silencieuse. Et du coup, évidemment, c'est ça qui rend compte, c'est comme ça que Lacan a essayé d'avancer sur l'idée de la féminité chez Freud. Ça rend compte de la tentation qui est spécialement vive chez une femme, ben, de rétablir une connivence avec le registre phallique, avec le côté des hommes, c'est-à-dire pour ce qui est le trait classique de l'hystérie, c'est de vouloir pour une femme être un homme comme les autres, c'est de se doter d'un équivalent phallique, ou de faire jouer à ces objets ce rôle. C'est ce qu'on voit ordinairement dans la vie de couple, par exemple, c'est les femmes qui se donnent en exemple à leur compagnon du fils ou du père que ce compagnon devrait être s'il n'était pas si nul. Bon. Et le principe de base de la querelle de ménage, n'est-ce pas? Et qui est évidemment un type de comédie qui n'existait pas chez Marivaux. Vous avez manqué. Oui, c'est le fait de se donner à son compagnon en exemple, de lui montrer, quand une femme montre à son compagnon quel genre de fils ou quel genre de père il devrait être s'il n'était pas si nul. Ce qui, alors là, c'est la voie certaine, si vous en manquiez ce soir, pour déclencher une scène conjugale. Et puis la deuxième question que je voulais poser, c'est celle-là, c'est la question de l'appareil psychique du psychanalyste. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour entendre une femme en analyse? Je ne vais pas répondre à la question. Je ferai remarquer que c'est quand même une énigme que de savoir pourquoi le même Freud qui ne se réveille pas quand Irma, comme un fantôme vengeur, vient lui montrer que ça ne suffit pas, la solution, le même Freud se comporte d'une façon absolument calamiteuse avec la jeune homosexuelle, et quand on sait en plus par la jeune homosexuelle ce qu'il lui a dit, les paroles ahurissantes de colère qu'il lui a dit, notamment, vous savez, la dernière parole qui n'est pas mentionnée dans le cas, c'est que quand il lui a serré la main, il lui a dit « Oh, quel regard! Je n'aimerais pas croiser ce regard dans la rue. Au revoir, mademoiselle, etc. » Vous voyez un peu l'échec total, l'incapacité à saisir qu'est-ce que cette femme, cette jeune fille était venue dire. Donc, pourquoi c'est le même qui, dans un cas, tient le coup et dans l'autre, bascule? Et vous voyez, parce que là, quand il est avec Irma, il est capable de se demander ce qu'elle a à la bouche. Il est capable de se demander ce qu'elle a dans le ventre. C'est ça. il est capable de soutenir cette question de savoir ce qu'une femme a dans le ventre. Alors bien sûr, c'est du sang, c'est du sperme, c'est des enfants qu'elle devrait avoir au lieu d'être malade, mais c'est aussi, et c'est ça qui est tout à fait étonnant, cette voix inarticulée, cette voix qui est cette singularité extrêmement étrange, qui se fait entendre, et dont le message lui-même est quand même quelque chose qu'on peut entendre, non pas de la bouche de Freud lui-même, mais de son insistance à rester auprès de ce point d'énigme. Parce que c'est bien ça la question qui ensuite s'est posée très généralement dans l'histoire du mouvement analytique, c'est comment faire face à cette énigme féminine. Et c'est cette question que Lacan reprend de la bouche de Freud, à partir d'ailleurs du cas de la jeune homosexuelle, pour éviter qu'on fasse à l'homosexualité féminine le même sort qu'à la mystique, c'est-à-dire y voir au fond une sorte d'erreur, hein, c'est-à-dire les homosexuels féminines se tromperaient, n'est-ce pas, en manquant le bon objet, qui est bien évidemment l'objet phallique. Enfin, ce qui est quand même, en quelque sorte, le type de contresens qui ont été faits sur la mystique au XIXe siècle, on pourrait tout à fait l'appliquer à l'homosexualité féminine. C'est-à-dire manquer justement ce qu'il y a d'absolument nécessaire et d'entièrement articulé dans la position de l'homosexualité féminine. C'est ça qui a profondément intrigué Lacan. Alors, c'est une question entièrement ouverte qu'il faut pour entendre ce double retrait. Hein, non seulement il y a une subjectivité féminine, mais c'est une subjectivité qui se définit autrement que par le phallus, par l'autorité ou par l'universalité, par le symbole. Et ce qui permet à la fois d'échapper à toute femme, tout être féminin, à une certaine hystérie, tout en ancrant la tentation permanente, et qui fait pour elle-même des femmes, chacune des femmes pour elle-même, si elle se demande au fond ce qu'elle est comme femme, une étrangeté sans modèle et un jeu spécialement fragile et spécialement singulier. Alors ce qu'il faut pour entendre cela, Freud en a manqué avec la jeune homosexuelle, peut-être moins avec Irma, mais pour tout analyste homme, c'est une question difficile, et si difficile que je la mesure à l'ironie prévisible de vos questions. Personne n'a été voué à la tâche de poser une question, c'est la première.
Entièrement assumé de ne pas avoir, de ne pas pouvoir, de ne pas dans le désir, parce qu'on dit que le complexe de vie, c'est pas le renversement, etc. Des garçons pour la mère, et comment la fille aussi, c'est ce double mouvement vis-à-vis de la mère, avant de faire ce double mouvement par rapport aux deux parents, enfin je sais pas, je sais prendre mes raccourcis parce que je n'ai pas tout bien compris. Il y avait quand même un double mouvement de renoncement, de ne pas avoir l'objet, quoi. Et là, j'ai un
de n'être ni l'objet de la mère, ni voilà, d'avoir
l'objet du père.
D'avoir l'objet qu'est le père pour la mère.
Voilà. Donc, il y avait déjà un double mouvement de renoncement. Et là, j'ai l'impression que pour expliquer ce que vous avez dit ce soir, on est encore dans ce mouvement, mais comme assumé,
Ben, c'est que l'homosexualité féminine a ce trait d'amener dans le registre de la conscience, même de la conscience morale, puisque ce sont toujours des positions éthiques, hein, que l'homosexualité féminine, c'est une forme d'éthique. Ça, c'est une manière Alors, ça amène dans le registre de la conscience des choses qui, chez beaucoup de femmes, ne le sont pas. Et en particulier, il y a cette idée que seule une femme peut apporter à une femme quelque chose que, entre elles seulement, et sans avoir à le dire, elles savent. Ce qui est une manière de répondre à la difficulté sexuelle dont on a toujours trouvé au fond qu'elle était beaucoup plus supportable que l'homosexualité masculine, non pas bêtement parce qu'il n'y a pas de risque de grossesse, comme des explications sociologiques comme ça, mais simplement parce que effectivement, d'une certaine manière, c'est extrêmement respectueux de ce qui se passe dans l'ordre phallique. Ça se met simplement en retrait. C'est d'ailleurs très joli ce qu'elle dit, la jeune homosexuelle, c'est qu'elle veut bien se marier, hein, si vous voulez. De toute façon, elle, son point de satisfaction subjective, il sera toujours ailleurs et dans un point qui est inexpugnable. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est absolument assumé. Ce que j'évoquais comme solution dans la question de l'hystérie, c'est que justement, le problème de la guérison de l'hystérie, on peut rêver, hein. Guérison de l'hystérie, le problème de la guérison de l'hystérie, ce serait de remplacer ce qui est une sorte d'asservissement de la sexualité à quelque chose de phallique qui serait constamment foulé, hein, à l'idée qu'il y a toute une dimension de la féminité, on n'a tout simplement pas besoin de se référer à cette dimension phallique, et que pour autant, les deux choses peuvent coexister. Mais ça n'a pas coexisté, c'est beaucoup dire d'ailleurs, genre, c'est difficile de dire qu'il y a un point, un socle commun en quelque sorte. Oui, ou se permuter, se mélanger d'une manière ou d'une autre. Sans que ça ait d'ailleurs besoin d'être l'objet d'une revendication consciente. Ça peut tout à fait être investi dans l'ambiguïté des investissements d'objets féminins, par exemple. Cette possibilité pour une femme de ne pas être vouée à traiter constamment ce qu'elle a de féminin dans le registre imposé et douloureusement imposé du phallique, par exemple, en se présentant elle-même comme un équivalent à cela, en étant que cet équivalent-là, est absolument problématique. C'est, si vous voulez, la différence entre le traitement de l'hystérie traditionnel auquel se rattache Freud, hein, depuis l'Antiquité, comment guérir les hystériques, quels étaient les rapports sexuels, ça les calmera. Et puis, le point de vue est un peu plus complexe, qui fait que, d'une certaine manière, il y a une subjectivité féminine qui n'est précisément pas faite de manière à ne connaître que ce recyclage, à proprement parler, comme valeur phallique dans le monde des hommes. C'est ce qui a évidemment attiré à Freud un certain nombre de femmes très remarquables. Moins les jeunes homosexuels qui, c'est un coup complètement manqué. C'est en particulier ce qui a attiré à la psychanalyse des femmes. Cette idée qu'au fond, il y avait une manière... Alors, elle est très difficile à dire, parce que ça ne va jamais valoir sur un mode universalisable, ça ne va jamais valoir avec autorité... Mais qu'il y a effectivement une position chez les psychanalystes femmes, c'est bien connu dans l'histoire du mouvement analytique, qui est une position d'authenticité absolue et d'impavidité à l'égard des prétentions théoriques des hommes. Enfin, un certain nombre de femmes ont pu comme ça avoir cette espèce de maniement de l'inconscient des enfants, par exemple, je pense à Mélanie Klein, mais il y en a bien d'autres, la Sharpe, etc. Qui est extrêmement troublant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va directement à ce qui est inaccessible à un homme, ou très difficilement accessible. C'est un drôle de savoir à cet égard, hein, qu'un savoir qui fait une place à ce qui n'est ni autorité ni universalité, et qui en investit un sexe.
En avant le fait que c'était un amour un peu courtois entre elles,
Oui. Dans le cas de Freud, c'est Freud qui parle de l'amour courtois.
Ah bon.
Ouais. Si vous lisez la vie de Sidonie Sillag qui vient d'être publiée, c'est sidérant. Enfin, c'est un amour. Je vais donner un exemple. Un moment, donc elle va chez la dame. Vous allez voir le genre d'amour courtois que c'est. Et la bonne leur dit: ah, je vous ai préparé une délicatesse. La délicatesse, consiste à remplir un bidet avec des petits poissons et très très peu d'eau. Et les petits poissons nagent comme ça, et donc on se met un califourchon sur le bidet jusqu'à ce que les poissons soient crevés. Et donc, c'est quand même l'amour courtois sous un mode un peu singulier. Donc voilà, les gens s'amusaient bien aussi, hein. Il ne faut pas non plus considérer que... Vous voyez, donc amour courtois, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une manière de marquer le caractère non phallique. Sur un mode, il y a des capacités d'idéalisation baroque tout à fait originales. Oui, bien sûr, c'est très vrai. Alors, bien connu dans certains couples homosexuels féminines, mais pour autant, il y a bien de la jouissance. Il y a bien de la jouissance avec une mise hors circuit de ce qui est phallique. Non, il faut. C'est pas du tout angélique. Le père, il a très très bien compris qu'il se passait des trucs qui posaient problème. Oui.
Je suis pas très féministe, mais les hommes aussi, ils ont des jouissances non phalliques.
Alors oui, ça c'est un très grave problème que vous soulevez. Alors, je vais en dire un mot. Alors évidemment, il y a des tas de jouissances qui ne sont pas phalliques. L'alcool, les toxiques, sens de ce type-là. On peut même probablement considérer que certaines activités intellectuelles, par exemple, ou esthétiques, peuvent être des jouissances non phalliques. Ce qui est très intéressant, c'est que le problème de l'inclusion dans le jeu de la comédie de ce type de jouissance-là, c'est que c'est une opération socialisante et imposée. C'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement lié à la reproduction. C'est pour ça qu'il y a un tel investissement sur l'érotisation des liens sociaux et sur la façon dont on peut faire des œuvres d'art avec ce rapport du phallus entre les hommes et les femmes. Quoi. Comme dans les comédies d'Aristophane, où carrément à la fin on amène le phallus couvert de fleurs sur la scène et on prononce des paroles et des chants, comme dans La Paix par exemple d'Aristophane. Ce que je voudrais dire, c'est que si ceci est vrai, c'est-à-dire s'il y a un appareil psychique qui serait capable, chez certains hommes qui voudraient en faire l'effort, pour dire les choses brutalement, de non seulement de ne pas se réveiller devant le rêve d'Irma, mais d'être un petit peu moins cloche devant l'homosexualité féminine. Il est possible que ça rende beaucoup plus compliqué ce que c'est qu'être un homme. Par exemple, moi, je suis très sensible au fait que chez Freud, et comme chez Lacan, Lacan répète plusieurs fois, la dimension du symbolisme phallique et de la castration recouvre et noie complètement les hommes. Et que ça s'impose à eux d'une manière telle que la question de la paternité, la question de la jouissance sexuelle, la jouissance du pénis, est quelque chose de tellement majeur que ça fait organisation. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des hommes plus compliqués? Et que, mais oui, mais enfin, on peut imaginer, si vous voulez, mais si je parle là d'une imagination qui serait la production d'un appareil psychique capable de soutenir un autre type de jouissance réelle. Bon. C'est une question qui, à mon avis, est très, très énigmatique, probablement. Je pense que ce serait une jouissance très étrange, parce qu'elle ne serait pas plus mise facile à mettre en circulation. Cela dit, on sait bien qu'il y a des hommes qui savent y faire avec les femmes d'une manière extrêmement habile. Ce sont des objets de comédie eux-mêmes, mais ils sont à chaque fois très singuliers. Et qu'on peut se demander, au fond, si c'est pas très courant d'avoir des gens comme ça chez qui ce serait une organisation psychique particulière que d'être capable de soutenir le désir féminin en se laissant transformer soi-même d'une certaine manière.
Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que l'homosexualité féminine ne pourrait pas être quelque chose comme ça aussi?
bien sûr. Mais enfin, qu'elle le soit, ça, j'en doute pas. Mais si vous me posiez la question pour les hommes, je pense que c'est très réel. C'est-à-dire que je pense qu'il y a il y aurait éventuellement des modalités beaucoup plus complexes de la sexualité masculine que celles qui sont habituellement rabattues sur le rapport à la castration. Et qui pourraient être mises en cause, justement, dans certaines rencontres avec certaines femmes. Oui. Mais évidemment, je n'ai pas plus de lumière là-dessus que sur ce qu'il convient de faire pour être... Enfin, c'est une expérience que j'ai eue, puisque j'ai beaucoup travaillé, comme Geneviève, sur des histoires de transsexualisme, d'un certain nombre d'homosexuels féminines qui finissent par se faire enlever les seins et par changer de sexe. Et effectivement, qui commencent comme des homosexuels, qui ont l'air d'être des homosexuels féminines tout à fait bien installés dans ce type de position. C'est sûr que ce sont des patients, surtout quand les gens se mettent à commencer les opérations, à se faire enlever les seins, à vouloir montrer les cicatrices, etc., qui suscitent des réactions de cauchemar. Hein. Évidemment, c'est extrêmement difficile. Par exemple, quand vous écoutez les médecins qui s'en occupent, c'est relativement insoutenable pour les infirmières en particulier. Elles ont beaucoup, beaucoup de mal à supporter que les patientes se fassent enlever les seins et à panser les malades. Hein. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à soutenir pour elles, par exemple. Alors, on voit ces femmes qui viennent complètement interloquées et perplexes, venir s'interroger là-dessus. Donc je me suis beaucoup posé la question de savoir ce qu'il faut pour soutenir ça, c'est-à-dire pour que les gens trouvent quand même un minimum de fil conducteur et d'appui pour passer autant qu'ils peuvent d'ailleurs. Hein. Le succès n'est jamais garanti, ce genre de cap. Voilà ce que je peux vous dire. Mais je trouve que c'est une sacrée question hein, de savoir si, au fond, une fois qu'on a dit ce que j'ai dit, ça ne change pas le sens de ce qu'on appelle la sexualité masculine. Enfin, je la cantonne, moi, la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour entendre vraiment une femme parler. Mais on peut évidemment aller plus loin.
Peut-être que ça empêche aussi l'homme qui écoute d'entendre l'homme qui parle.
C'est particulièrement avec le transsexuel, c'est une des grandes énigmes. Oui. Enfin, mon expérience que j'ai eue avec les quelques personnes que j'ai suivies, c'est que l'homme qui parle, là, dans ce cas, c'est vraiment un père mort. Hein. C'est même un père assassiné.
Pourquoi ?
Ben, il faudrait que je raconte des cas, hein, mais c'est trop délicat, mais c'est par exemple quelqu'un qui dans l'ascendance a subi des horreurs, des tortures, est mort dans un camp de la mort, sous les coups des parachutistes, etc. Et donc, c'est cet homme-là qui essaie d'habiter le corps d'une femme. Et souvent, sans qu'elle l'entende parler, parce qu'il est... Il lui vient du deuil de sa mère. Et on a beau faire des rapprochements qui vous paraissent pas totalement triviales, c'est que la personne, on lui a donné un nom ambigu qui est exactement l'équivalent du nom du père mort... elle s'habille comme lui, elle habille au même endroit, elle voit absolument pas le rapport. Vraiment, au niveau du symbole, il n'y a aucune connexion possible, alors que pour vous, au niveau du symbole, ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Et les filles qui sont faites pour remplacer des garçons mort-nés, par exemple, et qui ensuite sont élevées, on les habille en garçons, etc. Mais elles ne voient pas, elles ne voient pas. C'est une cécité absolue sur ce qui vous paraît, vous. Je veux dire, grotesque, n'est-ce pas, presque caricatural. Alors, elle ne voit vraiment pas le rapport. C'est une pure coïncidence si elle s'appelle Claude, Dominique, Camille, enfin des noms un peu ambigus comme ça. Pure coïncidence. Vraiment, il faut être un psychanalyste complètement taré pour voir le moindre rapport. Vous voyez ? Donc c'est là, et là on voit l'enfant mort qui parle dans la bouche de la personne sans qu'elle l'entende. Comme une... C'est l'enfant mort dans le désir de la mère qui a pris la place de la personne et qui parle à sa place, qui s'est annexé la personne. Enfin, ça, c'est des situations complètement singulières. Hein. Et où, justement, vous mesurez bien dans ce type de situation que la sensibilité à la valeur symbolique, etc., mais elle n'est absolument pas acquise. En général, si vous poussez trop loin le bouchon en disant, enfin, quand même, vous voyez pas que vous portez le même prénom, etc., les gens vous claquent la porte au nez en disant, quelle connerie, hein, c'est psychanalyste, hein, c'est impossible de... Il ne faut pas aller essayer de solliciter du symbole là où il manque. Bien, je vous remercie de votre attention.